Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Lady Sapiens. Vous avez certainement entendu ce nom parce qu'il y a d'une part un livre qui a été publié avec une certaine publicité sur les antennes et surtout une émission sur France 5 qui était un documentaire qui était consacré à la femme préhistorique, Lady Sapiens. Alors, vous pouvez penser que c'est assez surprenant parce que dans une émission qui est dédiée à l'architecture et à l'urbanisme, que l'on parle de la femme préhistorique. Mais vous allez voir, et surtout dans la deuxième partie du propos, que nous allons revenir justement à l'architecture et à la forme et aux modifications du territoire. Bien, alors tout d'abord, le titre est assez accrocheur et cette émission, bon, je vais vous dire mon sentiment, m'a paru assez navrante parce que d'une part, pas tellement, enfin, d'une part, sur le fond, je pense qu'il s'agit d'un néo-féminisme qui me paraît bien excessif. Parce que cela fait appel à la vision du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a un combat aujourd'hui pour réhabiliter le rôle de la femme dans la préhistoire à partir des découvertes récentes de l'archéologie. Alors, de l'archéologie préhistorique. Alors, bien sûr, avec le néo-féminisme, on dit qu'on réhabilite l'image de la femme préhistorique par rapport à la vision du patriarcat. Bon, tout ça est assez ridicule, me semble-t-il, parce que c'est surtout le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est quand même bien loin. Et on pourrait parler aussi de ce que a été la préhistoire pour le 19e siècle. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un combat fictif comme de réhabiliter la femme préhistorique. Alors, on est passé, et c'est assez amusant, de soi-disant oubli de la femme préhistorique à faire que la femme préhistorique était guerrier, chasseur, chef, reine artiste. C'est elle qui a peint les grottes pariétales. Bon, on passe d'un probable excès, en tout cas ancien, dans une forme moderne, et tout ça me semble vain. Alors, de plus, sur la forme, alors là, c'est encore plus critiquable, puisque on a dans ce type d'émission, d'ailleurs, c'est pas la seule, mais je ne sais pas quelle est l'idée que l'on veut faire dans ces émissions sur la préhistoire ou sur les temps anciens. Il y a une musique absolument invraisemblable, une musique de film d'horreur qui est très assourdissante. Le commentaire, il y a une voix sépulcrale qui annonce les choses avec une. C'est totalement ridicule, attendu qu'il s'agit de débats, il s'agit de sujets dont on peut parler d'un temps tout à fait simple, sans prendre ces artifices qui vont nuire à toute possibilité de débat. Alors, ça, si vous voulez, ça me paraît quelque chose d'important dans la mesure où on a oublié, dans ce que je vous disais sur le 19e siècle, quelles étaient les origines de la pensée préhistorique. Alors, je fais un petit retour à l'arrière sur la préhistoire. Alors, il s'agit, au 19e siècle, de la découverte, je ne sais pas si on va parler d'une découverte, mais surtout la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces, qui est une avancée majeure dans l'interprétation scientifique, et évidemment, qui s'oppose ou qui s'opposait à la vision préexistante, on peut dire, de la religion chrétienne, mais d'une manière générale, c'est de toutes les religions, où il y a à peu près la même genèse de Dieu qui crée l'espèce humaine, les animaux, la nature, la terre, etc. Alors, évidemment, la jeunesse n'est pas sur un processus évolutionniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus dans lequel les animaux successivement font une chaîne en continuité jusque à les formes actuelles du monde biologique, du monde animal. Évidemment, incluant l'homme. Donc, Darwin, dans cette révolution de cette époque, pose la question justement du passage du singe à l'homme, les primates et de l'homme, et la question de l'homme préhistorique devient quelque chose de fondamental, puisque on essaie de comprendre ce qu'était l'homme avant l'homme. Si j'ose m'exprimer ainsi. Donc c'est là que le questionnement important est sur le fameux chaînon manquant et la préhistoire qui va être, on peut dire, créée à ce moment-là, en même temps que l'anthropologie, va avoir comme devoir d'essayer de trouver, alors, la préhistoire à travers la connaissance que l'on va avoir à travers des fouilles, de trouver cet homme avant l'homme et l'anthropologie, alors d'une manière évidemment bien plus discutable, l'anthropologie, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire de chercher à travers les races qui peuplent l'humanité à cette époque, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'époque moderne, de chercher quelles étaient les races inférieures qui rapprochaient l'homme, on peut dire, des primates, du singe, et avec évidemment l'homme blanc qui était en haut de la chaîne de l'évolution. Donc l'anthropologie a tout de même, dans son origine, à ce fond racialiste, et je pense qu'il est intéressant des fois de se rappeler cela. Alors, là où je voulais en venir, c'est que cette histoire, cette préhistoire est imbibée tout de même de cette pensée-là. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'un homme avant l'homme. Alors, on est toujours sur un discours très ambigu. À la fois, on dit, avec les découvertes de l'ADN, par exemple, que l'homme de Cro-Magnon est absolument identique à nous-mêmes. Mais en même temps, il y a un discours sur l'évolution qui est complètement contradictoire et effectivement, l'ADN a montré que, d'une manière paradoxale, l'Adam et Ève de la Genèse étaient le couple primordial, étaient en fait très probablement une réalité scientifique. C'est-à-dire que tous les humains descendraient d'un couple primordial qui serait parti de l'Afrique, d'un climat tropical, subtropical, et que ils se soient dispersés sur tous les territoires. Voilà, donc ça c'est une théorie qui aujourd'hui paraît la plus vraisemblable et qui s'oppose à la théorie du buissonnement qui supposait qu'il y ait plusieurs foyers dans le monde qui recréent l'homme. Alors il est évident que cette théorie du buissonnement, elle a une tendance raciste, puisqu'en fait elle peut supposer aussi que ces jaillissement spontané sur d'autres continents, l'Asie, l'Australie, ou je ne sais pas, enfin, dans les différents continents, on aurait pu avoir des espèces qui, justement, n'avaient pas le même patrimoine génétique et auraient pu être différenciées. Et je pense que l'Adam et Ève africaine, qui rejoint encore une fois l'histoire du mythe de la Bible, et c'est toujours assez intéressant de voir quand la science rejoint les mythes et la poésie, que les mythes, à travers une interprétation que l'on sait être fictive, rejoignent la réalité. Alors, je vais vous parler évidemment du sujet qui nous occupe par rapport à l'occupation du sol et le lien avec l'architecture, mais ça je vais vous le réserver pour la deuxième partie de l'émission. Alors on fait la pause musicale et à tout de suite. Oui, alors pour parler des hommes préhistoriques et des sociétés préhistoriques, je vais m'appuyer sur ce documentaire Lady Sapiens dont je vous parlais précédemment. Et il s'agit d'une civilisation continue, c'est-à-dire qu'on parle du rôle de la femme préhistorique, on ne pense pas qu'il puisse y avoir des sociétés différenciées. Alors ça c'est assez surprenant parce que c'est quelque chose posé comme un absolu. Aujourd'hui, nous avons des sociétés extrêmement différenciées, mais ça a existé tout le temps. Il y a par exemple les Papous de Nouvelle-Guinée qui sont des cueurs-chasseurs, il y a des peuples nomades, il y a des peuples qui vivent dans des habitats précaires, d'autres, et puis jusqu'à nous avec nos grandes villes, etc., dans le monde occidental. Donc cette diversité est une constante de toutes les civilisations, et on peut dire même, cohabitent les unes à côté des autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire l'Afrique, ça c'était la vision coloniale, est constituée de huttes rondes et de tribus et de villages. Non, l'Afrique, il y avait des villes. En Afrique, il y a eu des civilisations totalement différentes, comme en Amérique du Sud et à peu près sur tous les territoires. Même par exemple, les peaux rouges l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis actuels et le Canada, en fait, les peaux rouges, les Indiens des films, il y avait aussi une histoire avec des temples semblables, par exemple dans le Mississippi, à ceux des Incas, et puis il y avait au Colorado et dans d'autres endroits, des villages qui étaient construits en dur, etc. Donc c'est toujours, on ne prend de l'histoire que ce qui arrange. Alors, pour revenir à la préhistoire, on pense toujours qu'il y a une évolution constante. Alors pendant 30 000 ans, il y aurait eu des chasseurs-cueilleurs qui se seraient partis sur tout le monde, et puis il y a très peu de temps, 10 à 15 000 ans, il y aurait eu l'invention de l'agriculture et l'invention des villages. Alors ça, ça constitue une sorte de Bible, et c'est de cela dont je voudrais parler. Alors, je ne vois pas pourquoi, d'abord, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, il y aurait eu une différence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses se seraient diversifiées, et avant qu'elles ne l'étaient pas, puisqu'on n'a aucun exemple de cela, et on a au contraire des sociétés différentes, et souvent ces sociétés différentes, elles ne font pas que se juxtaposer, elles cohabitent et elles échangent. Par exemple, les civilisations nomades que l'on pourrait assimiler aux fameux chasseurs-cueilleurs, elles sont en interaction avec des sociétés qui sont statiques, qui construisent des villages et des villes. Donc les deux échangeant. Ce qui paraît d'ailleurs la chose la plus vraisemblable. Parce que c'est assez surprenant de parler des chasseurs-cueilleurs d'une manière aussi unifiée sur tous les territoires. On sait qu'effectivement, je vous parlais des Papous du Congo, de l'ex aujourd'hui République démocratique du Congo qui a été le Zaïre, bon, effectivement, qui sont des peuples de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils matériels, on vit dans des huttes très précaires, mais il faut dire que c'est un climat qui permet justement d'avoir, il y a un approvisionnement régulier au niveau des fruits, puisque c'est des régions subtropicales dans lesquelles il n'y a pas d'hiver. Et la question que l'on peut se poser, comment, apparemment que l'on ne pose pas, comment des chasseurs-cueilleurs peuvent vivre pendant 30 000 ans, des peuples de chasseurs-cueilleurs, se reproduire et continuer sur le même mode avec des variations, par exemple, climatiques. Alors, d'une part, dans des climats avec des saisons, comme nous avons dans nos climats, et aussi, on le sait, par des périodes qui ont été très très froides. Donc, quand il y a des périodes, ne serait-ce que l'hiver et l'automne qui est en train d'arriver, on sait que c'est à peu près la fin des fruits et qu'on est obligé d'avoir des réserves et de vivre sur des réserves. Donc, les réserves, ça suppose qu'il y ait des choses qui sont stables et donc qu'il y ait des architectures pérennes, solides, qui permettent de faire les réserves. Non seulement ça, mais il y a aussi le problème qui est le problème de l'abri. Donc les hommes ne sont pas des ours, ils n'hibernent pas, ils n'ont pas de fourrure qui les protège du froid. Et les humains sont très fragiles. Donc, les hommes fabriquent dans toute leur migration, ils recréent le climat subtropical où effectivement on peut vivre nu sans protection, bah, ils recréent le climat subtropical dans à travers leurs habits, à travers leur protection et à travers, bien sûr, l'architecture et les constructions. Donc, pour revenir au film Lady Sapiens, on voit donc des personnages qui sortent plutôt des bandes dessinées ou des jeux vidéo, où ces femmes guerrières sont devant des habitations de branchages et de tentes. Tout ça me paraît totalement ridicule. On ne peut pas vivre dans des abris précaires, dans des climats, même le climat qui est celui de nos régions. C'est totalement impossible en hiver. Donc les enfants mouraient, les gens ne peuvent pas survivre. Donc il est très surprenant de penser qu'il n'y a pas, dès cette époque-là, non plus des chasseurs-cueilleurs, mais qu'il y ait à la fois des réserves nécessaires. Des réserves, ça veut dire qu'il y a de la cueillette, on peut cueillir des châtaignes, etc. Mais il est aussi vraisemblable qu'il y ait de l'agriculture avec des graines que l'on peut stocker pour survivre. De la même manière, la chasse est un processus très complexe et il est beaucoup plus facile de faire de l'élevage, de prendre des moutons, des chèvres, des brebis pour le lait, pour la viande, et on a un garde-manger sur pattes. Et tandis que la chasse, bah, et il y a le problème de la conservation de la viande, et puis le problème aussi que dans des climats difficiles, il n'est pas forcément sous la pluie ou sous la neige facile de chasser. En plus, je pense qu'il est infiniment plus complexe de chasser que de faire de l'élevage. Donc je comprends assez mal ce processus évolutionniste qui ferait vivre pendant 30 000 ans de la chasse et de la cueillette. Je pense que les gens qui parlent de ça, ils n'ont jamais été, ils n'ont pas eu d'enfance paysanne où on voit d'abord le peu de choses qu'il y a à cueillir et sur les périodes très très courtes dans la nature, c'est-à-dire si ce n'est pas cultivé, et sous nos climats. Et de même que chasser, c'est extrêmement complexe. C'est beaucoup plus facile d'élever des lapins que d'attraper des lapins ou des lièvres. Donc tout ça me paraît assez surprenant. Et là où je veux en venir, c'est de penser que il y a cohabitant dans cette époque-là, effectivement des sociétés nomades. Alors peut-être que l'on retrouve des vestiges de sociétés nomades. Alors ça, c'est une hypothèse, c'est-à-dire qu'il est peut-être plus facile ou de trouver des restes de chasseurs, c'est-à-dire en gros, il y a peut-être plus de chances de trouver autour des palombières des résidus pour des archéologues du futur que peut-être dans certains décombres de villes qui seraient rasées par le temps. Alors, par exemple, les cabanes. Bon, les cabanes, c'est très complexe de faire des tentes et des cabanes. Si vous regardez, par exemple, pour parler de ce qui est connu dans notre imaginaire, c'est les yourtes mongoles et les tipis des peaux rouges. Bon, on connaît les images, on les voit dans les films, Et autant l'un que l'autre sont des constructions complexes. C'est transportable, pour que ce soit étanche, c'est très compliqué. La yourte mongole, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires où on voit comment ils fabriquent le feutre en le tirant, en le faisant sauter avec des chevaux, puis après on le roule, puis il y a des armatures très complexes pour arriver, alors d'une part, à avoir une isolation totalement efficace. Puis avec une armature de charpente de bois qui peut être démontée et pliée, et puis après avec des étanchéités, c'est extrêmement complexe. C'est beaucoup plus facile de faire des maisons avec de l'argile et des pierres et de monter des murs. Alors, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que un mur de pierre et d'argile qui tombe, qui n'est pas protégé par un toit, eh bien, au bout d'un moment, il va devenir. Et le moment est très court. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience là de mur à l'argile. Il est dissous dans la terre dans un temps extrêmement court, en 2 mois, et puis l'argile disparaît, s'intègre à la terre, et il ne reste absolument plus rien. Alors, évidemment, quand on parle de 30 000 ans, vous imaginez. Donc, on peut avoir des villages, et même probablement des très grands villages, à la limite des petites villes, qui étaient construites comme on a construit d'ailleurs quasiment jusqu'au Moyen-Âge, en torchis, en pan de bois, et avec du chaume, avec donc des maisons qui étaient protectrices, confortables, et qui ne sont construites qu'à partir de matériaux organiques, et que avec le temps et un temps très rapide, ça se transforme totalement en matière organique et il ne reste aucune trace. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de traces que ça n'a pas existé. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que on nous parle des palombières, c'est-à-dire que comme si des archéologues du futur trouvaient les palombières et disent, ben voilà, c'était un peuple de chasseurs qui habitait dans des maisons qui étaient très hautes, au perché, dans les arbres, et en supposant que les villes soient détruites. Donc j'ai l'impression que la préhistoire, c'est la fameuse histoire du réverbère, que je vous rappelle. Qu'il y a quelqu'un qui est penché par terre autour d'un réverbère qui est à quatre pattes, qui cherche apparemment, et un passant lui demande: qu'est-ce que vous avez perdu? Il dit: j'ai perdu mes clés. Ah, il lui dit: vous les avez perdues où? Ben vous les avez perdues ici sous le réverbère. Non, je ne les ai pas perdues sous le réverbère, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Alors ça, c'est une histoire absurde, mais on peut se demander si effectivement la recherche préhistorique n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche là où il y a de la lumière et on ne pense pas qu'il puisse y avoir des endroits où effectivement on pourrait reconstituer une autre histoire. Voilà donc Lady Sapiens aujourd'hui. J'ai fait des prolongements, comme vous avez pu le voir, à travers l'architecture et la ville. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Thank you.